Motley Crue.
Girls, girls, girls.
Non, Jeff. Je t'ai dit, on fait pas ça.
Comment ça?
C'est quoi tantôt le groupe?
Poison.
Oh mon Dieu, j'ai encore envie de rire de ça. C'est tellement drôle. Merci d'exister.
Ouais, puis là, j'y ai pensé. J'ai dit, oh, ouais, je vais en mettre sur Motley Crue. Girls, girls, girls. Parce qu'on va parler avec Antonine Iaccarini de politique bientôt. Puis Pascal CV dans le studio.
Pas de lien entre nous et la chanson sur laquelle les spectateurs de Motley Crue enlèvent leur top.
C'est ça. Alors non, écoute, on a bien du plaisir en ce beau vendredi matin 19 décembre, mais je dis beau, mais pas beau à la météo parce que c'est 7 degrés au maximum aujourd'hui, puis parfois forte. C'est 50 mm de pluie qui pourrait s'abattre sur Québec. C'est très glissant à l'heure actuelle sur nos routes, glissant sur nos trottoirs aussi. Gare à vous si vous sortez, surtout pour les personnes aînées, là, ouais. Accompagnez-les. Faut pas que les gens se blessent à l'approche du réveillon. Et de
juste
Noël.
Les petites marches en sortant de chez nous un matin, là, heureusement,
ah oui, hein?
J'ai baissé les yeux et j'ai vu la belle couche de glace sur les marches, là. Puis malgré le fait que je faisais super attention, j'ai failli me planter. Là. Fait que si j'étais allé un petit peu trop vite à matin, d'après moi, je me pétais le coccyx.
Les escaliers, la voiture à la maison à la voiture, c'est glissant même, c'est un mètre.
Ah, prenez vos précautions, les amis. On veut pas de blessures. On est dans le temps des fêtes. Faut en profiter, faut fêter, faut avoir du plaisir. Max à la circulation.
Capitale Est, fin de la bretelle vers Laurentienne-Nord. C'est partiellement travé en raison d'une panne. Robert Bourassa Sud, sortie boulevard Père-Lelièvre. C'est partiellement travé en raison d'une sortie de route. J'ai l'impression que les dégâts sont limités, là, possiblement parce que les gens restent à la maison ce matin.
Vous l'entendez normalement dans le caucus Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30 dans l'émission On en jase le midi. Mais là, ça brasse tellement en politique qu'on s'est dit, on la sort de ses vacances. Même, je pense qu'elle n'a pas été en vacances
pense que non,
cette semaine. Et
on pas
va...
tellement.
Non, exactement. Et on va lui parler. C'est Antonine Iaccarini qui est avec nous. Salut Anto, comment ça va tes vacances?
Bon vendredi. Les vacances sont repoussées de jour en jour, mais c'est pas grave. Il y a des affaires pires que ça dans la vie. On s'ennuie pas. La politique, c'est quand même passionnant, alors je vais pas trop chialer.
Exactement. Est-ce que tu l'avais vu venir, Christian Dubé? Parce que, tu sais, quand on a vu l'entente avec les médecins omnipraticiens, on s'est dit, oh my God, il n'y a plus rien de la loi 2 là-dedans. Donc, il y avait cette espèce de pause-là où on se disait, comment Christian Dubé va réagir?
Est-ce que j'avais venir qu'elle allait démissionner complètement, là, puis ne plus être dans le caucus de la CAQ? Je mentirais de dire que je l'avais vu venir. Par contre, Monsieur Dubé, il y avait des rumeurs là, sur la colline que pendant les négociations avec les médecins, quand c'est devenu très, très corsé, il y avait des bonnes discussions au caucus de la CAQ, hein, parce qu'il y avait évidemment des personnes qui étaient moins à l'aise avec la ligne dure, notamment un Lionel Carman qui a fini par lui-même se sortir du caucus aussi. Moi, j'avais des sources qui me rapportaient que M. Dubé menaçait de démissionner si jamais on laissait tomber le projet de loi 2. Donc, c'était dans l'air déjà. Il faut dire que on lui a retiré le dossier des mains à la fin. C'est France-Hélène Duranceau et le premier ministre qui ont finalement repris le dossier. Et il y avait quelque chose d'un peu humiliant dans tout ça. Hein. Il y avait un petit peu la queue entre les jambes, M. Dubé. C'est quelqu'un qui a été très populaire au sein de la CAQ, qui était un ministre vedette, en fait, de ce Conseil des ministres. Donc, il y avait quelque chose dans l'air dans les derniers jours. Là. C'était une situation qui était dangereuse pour François Legault.
On se demandait, quand il est venu en entrevue avec nous, quand on a parlé de la santé, s'il savait que le soubresaut du départ à Christian Dubé allait se produire. Est-ce qu'il s'était jasé? Je ne sais pas si tu as la réponse à notre question, mais pour nous, il ne semblait pas être au courant que ça allait arriver.
Non, je pense que M. Legault a fait le saut hier quand il a appris la nouvelle. Il avait peut-être l'impression que la tempête était passée, que c'était réglé, puis qu'on allait arriver aux fêtes, que tout le monde allait prendre des petits Red Bull sur le bord du sapin de Noël, puis allait se calmer les esprits. Mais non, M. Dubé a pris sa décision hier. Puis, tu sais, il faut regarder un peu du côté politique, là. Ça a mis tellement d'ombrage sur la crise au Parti libéral. Tu sais, je veux dire, on a déjà oublié, là. Pablo Rodriguez a démissionné hier. Tu sais, je veux dire, ça fait pas une semaine. Puis là, on est parti complètement sur autre chose. Et aussi, la démission de Christian Dubé arrive juste après cette énorme tournée d'entrevues de François Legault. Effectivement, il a fait plein d'entrevues de fin d'année. Il est venu vous voir aussi chez Boulevard cette semaine. Et il a passé plusieurs jours à défendre son entente sur les médecins, à essayer de nous convaincre que non, c'était pas un recul complet, qu'il y avait des gains dans cette entente-là pour les patients, etc., etc. Et c'est comme si M. Dubé ramenait le travail de M. Legault vraiment à zéro, finalement, parce que dans son message de démission, il explique que pour lui, c'est le statu quo, qu'on n'a pas mis les choses en place non plus pour que Santé Québec, hein, la nouvelle agence de santé, puisse faire son travail pleinement. Il y avait deux éléments sur lesquels M. Dubé voulait vraiment pas reculer. C'était l'aspect collectif des objectifs là, de performance qu'on avait mis aux médecins. Et l'autre élément, c'était de donner plus de pouvoir au ministre de la Santé, de pouvoir mettre certaines choses en place sans passer par la négociation, parce qu'elles sont ardues, les négociations avec les médecins, on l'a vu cette année, et voulait finalement mettre cette dernière pièce de puzzle pour que sa réforme en santé, finalement, se tienne et fonctionne. Donc, lui, il considère, en fait, puis c'est ce que je lis entre les lignes, que la réforme ne fonctionnera pas vraiment si on n'est pas allé jusqu'au bout de cette affaire-là, puis ça ne l'intéresse pas de terminer son mandat comme ministre de la Santé dans ces conditions-là.
Est-ce que la tournée médiatique de François Legault a eu un impact sur la décision de Christian Dubé? T'es d'entendre François Legault sur toutes les tribunes dire « Non, 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 c'est une bonne entente », puis nous autres, il nous l'a dit « Stay tuned, vous allez voir les résultats, ça s'en vient, des centaines de milliers de Québécois qui vont avoir un médecin de famille. » Ça a-tu écorché Christian Dubé?
En fait, j'ai trouvé que M. Legault était quand même respectueux de Christian Dubé dans sa tournée d'entrevue. Hein. Il a pas laissé entendre que c'était un échec de M. Dubé. Il a dit « c'est normal, il faut en demander plus pour en obtenir un petit peu, c'est comme ça en négociation ». Tu sais, je trouvais que la gymnastique de M. Legault pour ne pas humilier Christian Dubé était quand même convaincante. Maintenant, je pense que ça a fait réaliser ça à Christian Dubé, que lui n'était pas à l'aise avec la position de son gouvernement. Et à un moment donné, il y a des contorsions là, que les élus ne peuvent plus faire, là, rendu à un certain point. Puis on en a beaucoup parlé ça cet automne, parce qu'il y a eu énormément de défections, de gens qui changent d'allégeance politique, des nouveaux indépendants. Et ça remet toujours en relief, c'est quoi la loyauté en politique? Est-ce que tu es loyal à 100% toujours face à ton premier ministre, ton chef, ton parti? Ou à un moment donné aussi, il faut que tu sois loyal envers tes propres valeurs. Puis on a senti que Christian Dubé est arrivé au bout. Là. Il ne pouvait pas contorsionner plus que ça.
La démission de Christian Dubé là, de la CAQ, est-ce que ça ouvre la porte pour d'autres? Puis on se pose la question à toutes les fois qu'il y a un départ. Là. Mais c'était tellement un visage important. Il y en a-tu qui pourraient dire « OK, là, c'est la goutte de trop. Moi aussi, je chaque mon camp. »
Absolument, c'est vraiment une bonne question parce que là, on se demande est-ce que ça peut faire un effet en chaîne, mais l'effet en chaîne est déjà un peu commencé là, parce qu'il faut quand même se rappeler, même s'il y a des coups de tonnerre puis des tremblements de terre politiques à toutes les 6 heures à peu près depuis quelques semaines, Christian Dubé, c'est pas le premier député de la CAQ à devenir indépendant. Là. Maïté Blanchette-Vézina, il y a Pierre Dufour, il y a Youri Chassin. Ils sont plusieurs à être devenus indépendants. Lionel Carman qui va peut-être revenir. On verra si là, il est à l'aise avec la position du gouvernement par rapport aux médecins maintenant qu'il y a eu un certain recul. Mais oui, on a l'impression, en fait, c'est ça le problème pour le leadership de M. Legault, c'est qu'on a l'impression que la coalition est en train de craquer. Et M. Legault, cet automne, quand on lui posait la question « Est-ce que vous allez rester chef? Est-ce que vous êtes encore la bonne personne pour mener les troupes? » Il répondait qu'il est le seul qui peut tenir cette coalition-là ensemble et que s'il n'est plus là, c'est des gens qui ont des idées différentes puis le ciment ne serait plus là. Mais là, le problème, c'est que M. Legault est encore chef et que le ciment commence déjà à craquer de partout. Donc, ça va devenir plus difficile pour M. Legault de convaincre qu'il est encore la bonne personne et que vraiment, là, si M. Legault n'est plus là, la CAQ est en perdition. Ça se peut, en fait, hein, aussi, que M. Legault quitte et que tout tombe. Tu sais, c'est un jeu de poker. Là.
Ben, c'est ça.
On ne le sait pas.
Ben, c'est ça que je trouve aussi très intéressant à discuter parce que la CAQ, que va-t-il rester de cette formation-là si François Legault s'en va? On a essayé d'avoir des noms de poulains, pas nécessairement des noms en tant que tels, mais au moins de savoir c'est quoi la préparation à la relève pour le parti politique cette semaine quand il est passé dans nos studios, M. Legault, mais on n'avait pas de réponse. Tout le monde était merveilleux. Ça allait bien avec tout le monde.
Ben oui, puis c'est un peu normal, on le comprend. Mm-hmm. S'il commence à nommer des noms, il va se mettre dans le trou. Mais c'est une bonne question, puis vous aviez bien fait d'y poser. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que M. Legault n'a pas vraiment préparé l'après-Legault. Mm-hmm. C'est un parti politique qui est construit autour de sa personne, on le sait. Les gens qui ont été élus en 2018 et en 2022 là, dans le gouvernement ou comme députés, ils le doivent beaucoup à François Legault. C'est pour ça aussi que les gens se gardent une petite gêne. On ne va pas le pousser progressive à la sortie, puis que c'est pas comme l'année passée avec Justin Trudeau. Là, t'avais des députés là, qui sortaient dans les médias pour dire qu'il est temps que M. Trudeau s'en aille. Mais à la CAQ, c'est un peu différent. Par contre, on se demande c'est quoi la pérennité, donc la chance que la CAQ a de continuer d'exister après M. Legault. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de comment les prochains mois se déroulent. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'on fait une course à la chefferie? Ou est-ce que tout ça va avoir lieu après l'élection d'octobre 2026, M. Legault décidait de persister? Bien, il y a quand même des noms, évidemment, qui circulent toujours quand on parle de la relève de M. Legault. On peut passer à Geneviève Guilbeault, Simon-Jolin Barrette, le nom de Bernard Drinville aussi qui circule. On entendait avant le nom de Christian Dubé aussi, parce que c'était un des plus populaires, un gestionnaire qui était dont les compétences étaient reconnues. Mais M. Dubé laissait régulièrement entendre qu'il n'allait pas finir nécessairement son mandat, qu'il n'allait pas se représenter. Donc, il y avait ça qui venait un peu mitiger les ambitions de chefferie et les rumeurs là, qui circulaient des fois sur son sujet. Donc, les prochaines semaines vont être cruciales. S'il fallait qu'il y ait d'autres députés, là, comme Max, tu laissais entendre, évidemment, là, c'est le supplice de la goutte là, qui pourrait faire très mal au leadership de François Legault.
Parlant de supplice de la goutte, celui de Pablo Rodriguez est terminé. Il a quitté hier avec un point de presse très sobre et émotif. Est-ce que le Parti libéral du Québec, selon toi, Antonine, va être capable de se trouver son sauveur comme le PLC l'a trouvé au début 2025 ou c'est peine perdue pour eux avec la corruption qui est revenue les hanter?
Écoute, tu donnes deux options qui, je pense, il y a quelque chose qui existe entre les deux. C'est-à-dire que de trouver des sauveurs comme Mark Carney, il faut que les partis politiques s'enlèvent ça de la tête. Okay? Parce que c'est une situation qui était complètement inédite, élection, retour de Donald Trump, le fait d'avoir un Mark Carney sous la main. Évidemment, là, tout le monde rêve d'avoir un moment Carney. La CAQ va risque de rêver à ça aussi d'ici la prochaine élection, pas seulement le Parti libéral. Il faut s'enlever ça de la tête, puis il faut se méfier des sauveurs en politique parce que tout ce que ça fait, c'est créer des déceptions par la suite. Hein, le politicien parfait, là, il n'existe pas. Maintenant, le Parti libéral a le temps d'ici la prochaine campagne électorale de se relever. Mais tu parlais de corruption, puis l'étiquette est très, très bien collée, puis c'est très difficile de l'enlever. Hein. Tu sais, il y a des étiquettes, des fois, là, tu grattes, puis elle s'enlève jamais. Ben, c'est ça, le mot corruption avec le Parti libéral, surtout avec une enquête de l'UPAC qui est en cours. Mais par exemple, si le Parti libéral se trouve un chef qui n'a pas de casserole après les pieds, qui arrive d'ailleurs, du secteur des affaires, par exemple.
Je pense à un Charles Milliard.
Ah, quel hasard! Moi aussi, je pensais à un Charles Milliard. Mais il pourrait en avoir d'autres, qui sait. Je pense que ça les aiderait, parce qu'un nouveau qui vient d'arriver pourrait dire, ben moi, je vais faire le ménage. Visiblement, il n'y avait pas été fait suffisamment. Moi, j'arrive, je suis tout beau, tout propre. J'ai pas de passif en la matière. Mais cette personne-là devra s'assurer que sa course à la direction et son financement pendant la dernière course à la direction a vraiment été impeccable. Sinon, ça peut repartir le cauchemar pour les libéraux.
On se posait la question de nombreuses fois cette semaine. On a tenté de la poser à plusieurs analystes aussi. Est-ce que, en politique actuellement, le fait d'être le porte-étendard d'un parti, le visage d'un parti, c'est problématique pour sa carrière parce qu'il y a des choses qui grouillent en arrière dont on ne sait pas?
Bien, c'est toujours le cas, je pense. C'est juste que des fois, il y a des moments de bouillonnement. La campagne de Pablo Rodriguez, on fera les bilans qui s'imposent, hein, parce que tant qu'on n'a pas le fin mot des enquêtes, on continue un peu de spéculer. Je voudrais quand même rappeler aussi pour le cas de M. Rodriguez qu'on n'a toujours pas les explications de Marois Risky. Son silence fait en sorte qu'on fait des liens dans notre tête entre ce qui s'est passé avec le renvoi de la directrice de cabinet Geneviève Hinze et toutes les histoires de brownies puis d'enveloppes d'argent cash, etc. Mais en fait, on ne sait pas exactement c'est quoi le lien entre les deux. J'ai envie de dire entre les trois parce qu'il y a un député fédéral aussi qui était mêlé dans tout ça. Mais bon, à Ottawa, on dirait que M. Carney, lui, ça ne le dérange pas d'avoir un député qui ait des allégations de donner des brownies en échange de vote dans un parti provincial. Très étrange. Mais
c'est pas étrange. Il veut la majorité. Steven Guilbeault, c'est pas étrange qui arrive. Ça arrive dans tous les partis politiques.
Ça permet comme ça de fermer les yeux, mais on s'entend que si ça se passait à Québec, cette affaire-là, ça passerait pas. Mais à Ottawa, on dirait qu'il y a toujours cette espèce de culture de « il n'y a rien de grave, puis c'est pas la faute à personne ». Puis on passe à un autre appel. Je referme la parenthèse là-dessus, mais Oui, en ce moment, on sent un bouillonnement. Puis quand ça commence, là, quand les journalistes, là, ils font leur travail, puis ils commencent à gratter sur quelque chose, là, ben, quand tu grattes, tu trouves. Moi, c'est ça que c'est la conclusion de toute cette affaire-là. Les partis politiques ont tous leurs faiblesses, leurs problèmes. Puis pour le Parti libéral, ben, le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en donnant de l'argent, en faisant converger de l'argent vers leur parti politique, vont avoir un retour d'ascenseur. Et ça, c'est un énorme problème. Puis on se rend compte aussi que si les élus du Parti libéral, puis les autorités du Parti libéral font pas barrage constamment, c'est comme des coquerelles, là. Ça revient constamment. C'est vraiment une problématique avec laquelle ils doivent conjuguer. Et je pense que M. Rodriguez et son équipe étaient peut-être pas assez proactifs et attentifs et vigilants par rapport à ça. Bon, maintenant, les enquêtes vont déterminer aussi s'il y a une responsabilité directe. Moi, mon hypothèse que je pose, c'est que M. Rodriguez n'a pas posé lui-même des gestes criminels ou non éthiques nécessairement, mais peut-être qu'il n'était pas assez vigilant puis était du style à dire: oh, ben moi, ça ne m'intéresse pas ces affaires-là, je ne surveille pas le financement. Ben, c'est ce que ça donne quand tu es à la tête du Parti libéral, finalement.
Puis ce que ça donne aussi, c'est que là, c'est bien beau, là, Pablo Rodriguez sera plus là, mais les enquêtes pourraient arriver avec des noms qui sont encore là. Puis ça me mène à te demander, Antonine, j'ai peut-être manqué un bout, il y a eu beaucoup d'informations sur le plan politique cette semaine. Geneviève Hinze, là, au moment où on se parle, est encore chez le Parti libéral du Québec?
Geneviève Hinze n'était pas revenue en poste comme telle. Pablo Rodriguez avait ouvert la porte. D'ailleurs, c'est un des défauts de sa gestion de crise parce qu'il ouvrait plein de portes là, en point de presse. À chaque fois qu'il parlait, il en rajoutait puis il mettait plein d'informations.
Mais elle n'était pas revenue.
En tout cas, elle n'était pas revenue. Puis Geneviève Hinze continue d'être dans un bras de fer juridique là, avec Marois Risky. D'ailleurs, Marois Risky, quand Pablo Rodriguez s'est retiré hier, a fait un statut Facebook dans lequel elle expliquait qu'elle était présentement dans une poursuite bâillon. Elle dit que la poursuite de Geneviève Hinze, c'est une poursuite bâillon. C'est quand même drôle de parler de poursuite bâillon quand tu veux pas parler de toute façon. En tout cas, ça, c'est un détail. Mais bref, ça va être un des éléments de suivi de toute cette affaire-là. Et ça nous démontre aussi à quel point les libéraux sont pas sortis du bois, là. T'sais, je veux dire, c'est pas parce que Pablo Rodriguez a quitté que, tu sais, il y a une enquête de la commissaire à l'éthique, il y a une enquête du directeur général des élections, il y a cette poursuite-là, il y a l'UPAC à travers ça, puis il y a une enquête interne au Parti libéral. Donc, c'est loin d'être terminé pour les libéraux, puis c'est pas juste un problème de Pablo Rodriguez, c'est un problème de Parti libéral, là, en ce moment.
C'est un peu dangereux, politiquement parlant, pour la prochaine personne qui va vouloir aller au leadership de ce parti-là. Soit tu vas vraiment gagner des points parce que les gens vont avoir en tête que tu es un peu le sauveur de tout ça, puis tu fais patte blanche et tout ça, ou soit tu vas couler avec tout ce qui va sortir. Tu vois ça comment, toi?
Tu as tellement raison. Honnêtement, c'est tout un défi là, qui attend le prochain chef ou la prochaine chef du Parti libéral. C'est comme si tu arrives dans une nouvelle maison, mais que tout est à reconstruire. Là. Et on a l'impression que le Parti libéral est retourné à la case départ. Après l'élection de 2022, le Parti libéral était dans un état qui était lamentable, mais on n'avait pas le spectre des problèmes de financement, de corruption, etc. On était beaucoup plus dans des problèmes de mobilisation des troupes. Dans les comtés, il y avait eu une grande démobilisation. Le leadership de Dominique Anglade avait laissé des traces importantes.
Le vote francophone était à son plus bas.
Ouais, puis d'ailleurs, on est revenu à cette phase de départ-là. On avait un léger cette semaine, un sondage léger qui démontrait, hey, le Parti libéral est à 11% chez les francophones. Je veux dire, c'est complètement fou. Et ce, quelques mois après avoir élu un nouveau chef. Tu sais, d'habitude, quand on a un nouveau chef, là, on a un bon élan, on est un peu en lune de miel. Souvent, le parti va remonter de quelques points. Mais cette crise-là va vraiment avoir fait en sorte de les ramener à la case départ. Donc oui, le chef ou la chef qui suivra un défi énorme et peu de temps pour y arriver. Mais ça peut être un avantage d'avoir pas énormément de temps pour y arriver parce que la lune de miel d'un nouveau chef peut être proche de la campagne électorale. Mais ça va dépendre de ce qui va ressortir de toutes les enquêtes et des bureaux d'enquête des médias aussi.
Antonine Iacarini, on te remercie infiniment pour ton temps ce matin. Je te donne un petit conseil en terminant. La prochaine fois que tu prends tes vacances, sac ton camp du Québec. Va-t'en,
bon, bon conseil. Mais regarde, j'aurais pas pu vous parler là, si j'étais partie en voyage.
Mais on est très, très, très heureux de te parler. Et on te retrouve à partir de la semaine du 12 janvier dans le caucus Iacarini à compter de midi. Dans l'émission On en jase.
À bientôt.
Hey, salut, bon week-end, joyeuses fêtes et bonne année 2026, Anto. Salut. Antonine Iaccarini, que vous entendez dans l'émission On en jase le midi, de midi à midi 30, du lundi au jeudi. Ah, qui va aller au Parti libéral du Québec?
Ouais, je ne sais pas, mais il faut être courageux. Vraiment, il faut vraiment être courageux politiquement pour... Il va falloir qu'il assume cette crise-là. Tu sais, même un leader qui se présente, qui dit « ce n'était pas sous mon air, ce n'était pas de ma responsabilité », il ne pourra pas répondre ça à l'infini. Là.
Non.
Parce que même quand tu vas être rendu au leadership d'un parti qui coule ou croule par toutes les valves, parce que quand ça va se mettre à sortir, j'ai l'impression que ça va être à chaque jour qu'on va en parler aussi, ben, il va falloir qu'il y ait plus de réponses que j'étais pas là, là.
Ça va être une course à deux entre Charles Millard et Carl Blackburn. Charles Millard va passer relativement aisément, puis il va devenir le chef dans à peu près deux mois.
En effet, je vois pas quelqu'un de l'externe arriver.
Peut-être avoir des petits noms random, là, mais j'ai l'impression que la course, ça va être...
un round de Mario Roy, comme il y avait eu dans la première
course. Ouais, c'est ça. Fait, mais ça va être Blackburn face à Millard.
En effet, je suis d'accord avec toi. Au retour de la pause à Marceau le matin, on fait une petite tournée d'actualité. Puis Pascal, tu veux nous parler de chiffres impressionnants pour Avatar 3?
Ah, un film qui était hautement attendu, qui s'échelonne sur plusieurs décennies, finalement, Avatar. Puis si vous pensez que le troisième, c'est le dernier... Oui, c'est en salle maintenant. Si vous pensez que c'est fini après le 3, il y en a jusqu'à 5 de prévus.
Oh, donc on parle de ça. On va se faire une petite parenthèse cinématographique à l'émission Marceau le matin sur les ondes de Boulevard 102.1. Marceau.